Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Soit Frédéric Huillon, le financier, expert en finance et en comment on appelle ça, des rapports d'impôts, moi que je dis, mais c'est pas comme ça qu'il faut dire
déclaration.
Ça. Déclaration d'impôts.
C'est tellement plus beau.
Oui, mais c'est parce que des rapports d'impôts, des fois, c'est plus facile ou plus difficile à digérer. Hein? Je pense que c'est pour ça, mais c'est un autre sujet. Aujourd'hui, Frédéric, tu nous as lancé toute une question.
Oui.
Avez-vous vraiment besoin d'une assurance vie?
Ouh là là!
Textez-nous donc au 969fm.ca. C'est pas ça, pas en tout. Textez-nous au 418-903-5969, gang. Pensez-vous que vous avez besoin d'une assurance vie ou pas? Écrivez-moi ça, voir.
Un petit défi que je me lance à vous expliquer. Si ça passe, ça va être bien.
Oui, on va peut-être commencer. Ça se pourrait-tu qu'il y ait des auditeurs qui nous écoutent, mais qui ne sachent pas qu'est-ce qu'une assurance vie?
Oui, c'est ça. Souvent, beaucoup de gens, aujourd'hui, dès qu'on entend assurance, c'est « Ah, les assurances, ça coûte cher, on a besoin, blablabla. » Il y a plein de choses, comme beaucoup de vibrations négatives qui peuvent circuler par rapport aux assurances.
On paye ça pour rien, hein? Des fois, on entend ça.
Au Québec,
ça.
On est surassuré. Ça, c'est oui. Mais le problème, si on pense ça, beaucoup de gens sont sous-assurés parce qu'ils pensent l'être trop. Donc, là, je ne veux pas aller trop loin dans ces détails-là. Mais ce que j'aime, moi, quand j'embarque sur un sujet qui m'intéresse, j'aime bien creuser. Et en partant, j'aime bien creuser, aller jusqu'à l'historique un peu pour voir ça part de où. Oui, aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore vraiment des très bonnes chose par rapport à l'assurance, c'est un produit financier qui est là pour rester, c'est nécessaire. Là. Mais quand on sait d'où ça vient, des fois on dit « Ah, ça a peut-être encore du gros bon sens, cet outil-là financier. » L'historique vraiment de base, là, quand ça n'existait pas l'assurance, là, c'est un mot que bien des gens connaissent encore, la corvée. Donc, quand il y avait une ferme qui passait au feu,
ouais.
Il y a plusieurs années, on recule plusieurs années en arrière, où est-ce que 90-95% de la population cultivait les champs, lorsque le feu prenait dans une ferme, ben, c'était, pas l'outil, mais le gagne-pain principal d'une famille ou de quelques familles proches, bien les autres, les voisins, fermiers proches venaient aider à reconstruire la ferme. Donc, chacun y mettait du sien, du temps, des connaissances pour rebâtir. Charpentier, je suis capable de clouer un clou, mais bâtir une maison, c'est une autre chose. Et ça prend des connaissances. Donc, il y avait ces connaissances-là qui étaient comme données gratuitement. Et il y avait l'huile de bras, qu'on peut appeler, là, des gens qui venaient donner du temps pour pouvoir remonter une ferme. Peut-être que des fermiers redonnaient 2-3 vaches, redonnaient des chèvres, redonnaient des moutons.
C'était une forme d'assurance?
Bien, c'était le début de dire, il y a du malheur à une personne, on vient l'aider, cette personne-là.
C'est une aide de la collectivité.
Exactement.
Okay.
Et moi, pour avoir travaillé la dernière emploi que j'ai fait dans le domaine des assurances, c'était avec les Chevaliers de Colomb. Ils ont une assurance particulière. Et c'était en 1882 que l'abbé Michael McGivney avait fondé les Chevaliers de Colomb. Et sa prémisse de base, c'était de venir en aide à la veuve et l'orphelin. Parce que lorsque l'homme de famille, qui était dans ces années-là, je venais de le dire, là, On parle de 90-95%. C'était l'homme qui travaillait dans le chantier, dans les champs et tout. Donc, la femme avait comme... Oui, elle faisait son gros boulot d'élever les enfants et tout. Mais le côté financier, il fallait qu'il y ait quelque chose. Donc,
c'est pas elle qui ramenait l'argent à la maison, exactement. Elle était à la maison.
Exact. Elle aidait énormément par en arrière, oui. Là, tout le côté nourriture et on s'entend. Mm-hmm. Mais je veux pas te dénigrer ni de
l'autre.
Non,
on comprend ce que tu veux dire.
Donc, ça, c'est un peu l'historique de dire quand il y a quelqu'un dans le malheur, bien, la société ou les gens alentour se rassemblent pour venir aider. Donc, le principe d'assurance vient de là, où est-ce que là, on part de dire, maintenant, on va mettre un peu de sous chacun dans un gros chapeau, puis quand le malheur tombera sur un de nous, il pourra piger dans ce chapeau-là au besoin qu'il aura besoin.
OK.
Donc, l'histoire part de là.
On dirait que ça fait penser à du sociofinancement.
Beaucoup.
OK.
C'est vrai.
Ça part quand même... On n'a rien réinventé.
Non.
On a peut-être juste améliorer. Je ne sais même pas si je peux dire qu'on a amélioré avec ta question, là, si on a besoin ou pas.
Deuxième petit point que je voulais aborder, c'est les deux grandes catégories d'assurance. Ouais. C'est pas une bataille entre un et l'autre. Les deux sont utiles pour ce qu'ils offrent comme outils financiers. Des fois, on peut avoir besoin que de un, on peut avoir besoin que de l'autre ou des deux. Exemple, les deux catégories, on parle d'assurance temporaire et d'assurance permanente. Mm. Donc, il y a une question, lorsqu'on s'assure, c'est est-ce que j'ai besoin d'être protégé pour longtemps? Exemple, est-ce que je vais décéder? Oui, quand? Très loin, 50 ans et plus, j'espère.
Mais ça, on ne le sait pas.
Non, on ne le sait pas. Donc, c'est permanent, cette question-là. Je vais m'assurer... Mais je ne peux pas dire je m'assure pour 10 ans. Puis après, si je dépasse 10 ans, je suis plus assuré. Puis je fais quoi? Donc, il y a ça. Mais il y a possibilité de dire à tous les 10 ans, je renouvelle. Le principe des assurances, c'est plus on s'assure à un âge plus élevé, plus c'est cher. Donc, l'idée, quand on dit je vais aller chercher de la permanente, c'est de prendre aujourd'hui qui va me coûter le moins cher possible sur du long terme. Donc, il y a des besoins à long terme, exemple le décès. Et il y a des besoins temporaires. Le meilleur exemple, c'est pas de l'assurance vie, c'est l'assurance sur une télé ou un automobile. Où est-ce qu'on va dire, je prends ma voiture pour 5 ans, je vais l'assurer pour 5 ans. Point de vue mécanique, là, je parle pas d'autres. Le temps qu'on l'a là, au complet.
OK.
Un meuble, une télé, je l'assure pour 3 ans. Quand la vie utile sera passée, je changerai de télé, puis je l'assurerai elle aussi, ça brise dans la première année, des choses comme ça. Point de vue assurance vie, on peut simplement penser aux enfants. Donc, si aujourd'hui j'ai un enfant qui naît, je vais m'organiser d'avoir une assurance vie qui fait que si je décède dans 6 mois, l'enfant aura 6 mois, ma conjointe, qui va rester avec l'enfant, aura au moins 17 ans et demi pour le rendre majeur et elle aura besoin d'un soutien financier pour pouvoir l'aider, là, tout ce côté-là. Mais il y a un côté quand même temporaire que quand l'enfant a 18-20 ans, il peut être autonome et bonjour, je fais bande à part et j'ai pas besoin que si ma mère décédait elle aussi, que j'ai besoin d'un soutien financier. Là, l'enfant est adulte et devrait être capable de reprendre le côté de faire rentrer des sous. Je pense que j'ai accroché le micro moi aussi. Donc, c'est ça, les deux côtés d'assurance. Et là, quand je dis les deux, je viens comme donner un exemple. C'est que chaque personne devrait prendre au moins une permanente pour au moins payer les derniers frais. Donc, parce qu'on va décéder, puis on ne veut pas que lorsqu'on ne sera plus là, que les gens qui vont nous survivre doivent mettre la main dans leur poche pour dire on va payer les derniers frais, puis on va presque s'endetter.
Tu es en train de nous dire qu'on a besoin d'une assurance vie.
Sur ce côté-là, permanente, souvent, on dit qu'on devrait avoir besoin de ce côté permanente-là. Le côté temporaire, c'est des gens qui n'auraient pas d'enfants n'ont pas à augmenter leur capital d'essai s'ils n'ont pas d'enfants en tant que tel. Mais quand il y a des enfants, on suggère fortement de prévoir que s'il y a un décès avant qu'il soit majeur, d'aider à subvenir aux besoins du parent survivant.
Okay. Admettons qu'on a Pascal, là, une femme célibataire qui s'achète une maison. Elle est fonctionnaire, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnaires dans la ville de Québec. Donc, tu lui suggérais de ne pas prendre d'assurance-vie pour que sa maison se paye toute seule à son décès?
Bien, le produit en tant que tel, déjà, l'institution financière va lui suggérer d'assurer. Il y a comme le... Là, on ne parle pas d'assurance... Et là, on embarque dans un sujet. On... il y a déjà des produits d'assurance maison. Ça existe déjà comme produit. Et la personne peut dire, moi, je ne veux pas prendre l'assurance qui est vendue avec la maison. Je vais m'assurer moi-même. Si je décède, la maison sera libre.
Mais tu vois, moi, Frédéric, je voyais une assurance temporaire là-dessus.
Oui, exactement. Mais là, ça peut être assurance vie.
Mais là, puisque Pascal n'a pas d'enfant, elle n'aurait pas besoin de prendre d'assurance.
Ben, peu de gens le font par l'assurance vie pour assurer leur maison, effectivement.
Ah, mais c'est ce qu'ils devraient faire, je pense. Mais ça, c'est mon avis, mesdames et messieurs.
Oui.
Ça n'engage pas le financier.
C'est de vérifier qu'est-ce qui va coûter le moins cher le temps qu'on paye, que la maison devienne à 100% à nous, qu'il n'y ait plus d'hypothèque.
Ce qui coûte le moins cher? Ah! Oh, que je... J'ai envie de ne pas être d'accord encore.
Ben, pour assurer.
Mais oui. Ce qui coûte le moins cher, oui et non, parce que si ça coûte moins cher, peut-être que tu vas avoir moins d'argent aussi. Ils vont peut-être... Admettons que tu es chanceux que ta maison vaut juste 100 000 $. Ça doit être plutôt rare, je vais vous dire, de ce site-là. Mais si tu prends une assurance vie avec ton institution financière, tu vas payer toujours le montant. Puis ton assurance, si jamais arrive quelque chose, elle va diminuer au fil des années, au fur et à mesure que tu vas payer ton hypothèque. Tandis que si tu prends une assurance temporaire, tu vas payer toujours le même montant, mais tu vas aussi recevoir toujours le même montant. Okay, fait que des fois, c'est... Oui, je comprends le principe qu'on a tendance à regarder, OK, il faut que ça me coûte le moins cher possible, mais OK, ça va te coûter le moins cher possible, mais...
Ça donne quoi?
Contre quoi? C'est quoi que exactement. Tu vas avoir à l'autre bout, là? Mais je comprends ça, la majorité des gens me le disent souvent, « Manon, je peux même plus m'en mettre 10% de côté. » Mais ça, gang, continuez pareil.
Oui.
Fait que Frédéric, je comprends les nuances que tu nous fais.
C'est du calcul à faire, là. Est-ce que je suis prêt à avoir moins, mais en payant moins, ou je suis prêt à payer toujours un peu plus, mais avoir plus si jamais il arrive un pépin?
Oui, puis là, je comprends que ce n'était pas là pantoute que tu voulais aller ce matin. Merci de m'avoir suivi dans cette folie. Et donc, il y a deux types d'assurance, pour revenir à ton point, toi, c'est qu'il y avait la temporaire et la permanente. Et tu suggères à nos auditeurs de la permanente d'en avoir une au moins pour couvrir les frais funéraires.
Exactement. Avant de venir au troisième point qu'on va tenter de... avec le défi de savoir est-ce qu'on a vraiment besoin.
Tu veux vraiment nous répondre à ça? Tu vas te commettre, là. Tu vas nous dire les vraies affaires. Là.
Je vais.
OK. Je mets un spotlight sur toi, Fred.
OK. Et plus de lumière, non?
Non, mais c'est parce que tu sais, on est en live Facebook aussi présentement. Okay.
Oh,
là,
non, fait je
là, tout le monde voit ta...
Oui,
ce que tu vois à l'écran. Les auditeurs le voient également.
D'accord.
J'ai osé leur demander à eux quelle était leur position, à savoir si... c'était oui ou non qu'il avait besoin d'assurance vie, mais on dirait qu'il n'y a pas personne qui a voulu se commettre. Non,
okay.
C'est ça. Puis je vois qu'il y a au moins deux personnes sur le live. Ceux qui nous écoutent en audio peuvent le faire par texto. Et là, c'est moi qui n'y a pas vérifié les textos. Donc, Frédéric?
La première question, c'est pourquoi on doit s'assurer? On vient d'en parler un
ouais.
petit peu pour payer les derniers frais.
Ouais.
Non, on ne veut pas que nos enfants, notre conjoint, conjointe, nos frères, sœurs, aient à débourser de leur propre poche pour nous enterrer. Donc ça, minimalement, de là, le deuxième point que je disais, on devrait minimalement au moins s'assurer pour nos derniers frais. Les derniers frais, il peut y avoir aussi là, les frais médicaux et tout ça là, qui peuvent... augmenter, qu'il y a eu un endettement là-dessus. Des petites choses à calculer un petit peu. Le deuxième, c'est pour le temps que les enfants soient adultes, ça peut représenter combien? On l'a sous-entendu dans le deuxième point. Des gens qui une famille, ben si l'enfant est très, très jeune, ben, ça peut coûter beaucoup de sous pour l'amener. J'entendais dans des conférences, une fille... attendez un peu. Un garçon, ça coûte 180 000, puis une fille, 200 000.
Hey, c'est sexiste, non, s'il vous plaît, ça, là.
Je ne fais que répéter. Mais mettons...
T'es pas obligé de répéter des choses comme ça, là.
Mettons 200 000 gars et filles, peu importe.
Ouais.
Mais juste pour montrer un peu le côté drôle est là, mais le côté sérieux en arrière, c'est que ça coûte 200 000 à peu près d'élever un enfant.
Donc, et ça, c'est de l'amener jusqu'à sa majorité?
Oui. Donc, c'est quand même assez impressionnant. Là, comme
montant. Sais-tu que tu me fais réaliser que moi qui en ai eu 4, ouais, hein? Pensais-tu comme Fogg, hein?
Exactement.
C'est pas vrai.
Et la troisième chose, pour qu'on s'assure, bien, c'est pour laisser des sous en cadeau. Est-ce que si je décède, je veux que mes enfants aient chacun 20 000 $, 50 000, 100 000, bien, je vais payer ça, une assurance, pour que à mon décès, il y a au moins, par rapport à ce montant-là, moins les frais, les derniers frais et tout ça, qui reste à peu près chacun 50 000. Il y a eu, je ne sais pas si encore beaucoup de gens font ça, prennent une assurance vie et le bénéficiaire est un organisme à but non lucratif.
Oui, ça se fait
donc,
encore.
Donc, un don. Donc, ça aussi, c'est des choses à planifier, prévoir pour des gens qui ont ces intentions-là de dire, ben moi, j'ai pas eu d'enfant dans ma vie. J'ai pas de conjoint, pas de conjointe, mais je suis enfant unique. Mes parents sont décédés. Ben j'ai une œuvre, peu importe, là, dans ma paroisse, chez moi, qui me tient vraiment à cœur. Puis je leur en donne à chaque année, mais je trouve que je leur en donne pas assez pour tout le bien qu'ils font. Ben, je vais prendre une assurance que l'organisme sera bénéficiaire.
Oui, je pense qu'on appelle ça un don successoral.
Oui.
Oui.
Fait que ça aussi. Donc, c'est à peu près pour ça qu'on doit se poser la question, comment j'aurais besoin d'être assuré? Et là, pour répondre à la fameuse question, est-ce que tout le monde devrait s'assurer? On rentre dans un terme qui s'appelle le bilan successoral. Donc, un bilan, si on revient, on parle un petit peu de notion comptable, c'est qu'on vérifie qu'est-ce que j'ai comme actif? Souvent, on peut dire, ceux qui ont une maison, il y a une maison à vos temps, si elle se vendrait, j'ai une voiture, j'ai des placements, j'ai des REER, j'ai des choses comme ça que j'ai en argent que j'ai, que je pourrais demain matin tout vendre et avoir X montant d'argent dans mon compte de banque.
Donc, les comptes tout ce de banque qui est côté nos actifs.
Exactement, côté actif. Donc, ça, c'est le côté, puis c'est aussi bon de notre vivant de faire cet exercice-là, combien je vaux. C'est à peu près ce qu'on fait, un bilan successoral. Donc, j'additionne tous mes actifs. Mettons que j'en ai pour 1 million.
Mmh.
De l'autre côté, on va voir qu'est-ce que j'ai comme dette. Est-ce que j'ai un prêt hypothécaire? Est-ce que j'ai un prêt voiture, automobile? Est-ce que j'ai encore un prêt étudiant? Mmh. Est-ce que j'ai des emprunts que j'ai faits, carte de crédit, marge de crédit, etc.? Donc, à qui je dois de l'argent et combien? Donc là, on parle de j'ai un actif de 1 million. Gros chiffre, mettons que j'ai pour 750 000 de dette,
mm-hmm.
Ben, ma valeur nette, elle est de 250 000.
Mais au moins, tu vaux quelque chose.
Exact. Donc, à partir de ce montant-là, point d'interrogation, est-ce que j'en ai assez pour me faire enterrer, mes derniers frais? Est-ce que j'en ai assez pour mes enfants s'ils ne sont pas majeurs encore? Et si j'en ai et s'ils sont majeurs. Et est-ce que j'en ai assez pour, si je veux faire des cadeaux à ceux qui vont me succéder? Donc, si la réponse est oui, j'ai assez, hein, quand je vais décéder, tous mes actifs vont être vendus, ben si cet argent-là suffit à tout payer mes dettes et il en reste assez pour mes derniers frais et ce que je veux faire à côté, j'ai plus besoin d'assurance. C'est de cette façon-là que je voulais l'amener à la question. Mais c'est vraiment important de faire ce calcul-là et se garder une belle marge de manœuvre parce que oui, je peux dire que ma maison aujourd'hui, je pourrais aujourd'hui la vendre à 300 000. Mais dans 20 ans, si le marché, théoriquement, le marché va en montant, mais si ça descend, il faut que je prévoie un petit peu. Donc, il faut calculer beaucoup de marge de manœuvre dans nos calculs, mais ça donne déjà une bonne indication. Est-ce que j'ai besoin de m'assurer? Si j'ai juste besoin pour mes derniers frais, on parle peut-être d'un 15 000, ben est-ce que j'ai 15 000 de lousse? Si je l'ai déjà dans mon compte de banque, le 15 000, peu importe l'actif moins passif, j'en ai assez. J'ai plus besoin d'avoir une assurance vie. Assurer la maison, ça passe au feu, ben là, oui. Assurer l'automobile si j'ai un accident ou si je fais des dommages sur un autre véhicule, oui. Mais moi, ma vie en tant que telle, la réponse est là. Elle n'est pas catégorique X. Mm-hmm. C'est vraiment un exercice du cas par cas où est-ce que les gens doivent prendre un papier crayon et dire, ben voici, aujourd'hui j'ai tant. J'ai tant en actif, j'ai tant en dette. Est-ce que je peux me permettre de dire que je n'ai plus besoin de surendettement?
Oui, puis ça dépend, c'est quoi l'objectif aussi. Comme tu disais, à la fin, qu'est-ce que vous laissez comme héritage? Voulez-vous laisser un héritage uniquement humain, un héritage financier? Voulez-vous faire des dons successoraux, etc.?
Et tout un coup, hein, parce que une chose qui n'est peut-être pas souvent dite, c'est que si moi je m'assure pour 100 000, c'est calculé que, bon, mon espérance de vie pour les hommes, c'est peut-être 84. Oui. Les dames, pour 87, là, les dames, c'est toujours 3-4 ans de plus, l'espérance de vie. Ben si je prends...
On coûte plus cher, mais on vit plus longtemps. c'est ça la leçon dans ta chronique aujourd'hui, Frédéric. Mais non.
C'est, aujourd'hui, je décide de me prendre une assurance jusqu'à 84. Il reste, bon, mettons, 20 ans, 30 ans. Ouais. Donc, je vais devoir, avec les taux d'intérêt, faire en sorte qu'à 84, mon espérance de vie, que j'aille payer 100 000.
Oui.
Donc, il est là le jeu. Là. Donc, je le paye de toute façon. Là. Fait qu'à un moment donné, est-ce que ça vaut la peine de payer un produit ou de, quand on l'a déjà, d'arrêter de payer pour un produit, on l'a déjà, là, on peut le placer puis faire des intérêts dessus au lieu de payer un outil qu'à un moment donné, si je dépasse 84, que j'espère, ben je vais continuer à payer plus que ce que j'ai voulu m'assurer.
Dans le fond, là, Frédéric, là, pour répondre à ta question, là, il y a comme une sous-question.
Oh, allons-y.
Préférez-vous valoir plus cher vivant ou mort? Oh. Un peu ça. C'est ça qui me montait. Oui. J'avais envie de te le partager.
Oui.
Fait que gang, c'est à vous autres de voir. Ça vous appartient. Puis si vous avez besoin de conseils, comment faire pour te rejoindre, Frédéric?
Mon site financier, c'est cute.
Oui, vas-y, internet. C'est lefinancier.com.
J'ai voulu répondre à
très vite,
à la première
hein,
phrase.
Lefinancier.com et financier, P-H-Y.
Oui.
Donc, merci Frédéric de nous avoir secoué un peu en regard.
Le petit bonus ira une autre fois.
Oui, on avait un bonus, mais on n'a plus le temps. On garde ça pour une prochaine chronique.
Je m'étais gardé selon la
quantité. On garde ça pour une prochaine chronique, ce bonus-là?
Le 24-25 décembre.
Excellent. Je serai pas là le 24-25 décembre. Tu feras la chronique tout seul. Merci d'avoir été là, Frédéric.
Ça me fait grandement plaisir. Merci de l'invitation.
When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com. The number one financial destination, yahoofinance.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.